des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Comme chaque semaine, une rencontre entre deux écrivains pour un voyage au cœur du petit atelier intime où s'élabore le miracle secret, selon la belle expression avec laquelle Borges dans Fiction nommait la littérature. À une petite différence près, ce samedi, puisque le studio a des airs de fontaine de jouvence. Est-ce la fin de l'année qu'on aperçoit, les fêtes à venir et les livres qu'on rêve de se faire offrir? Est-ce cette belle et troublante citation de Lévi-Strauss dans Triste Tropique qui nous a inspiré? Je le cite, « Ce n'est pas seulement pour duper nos enfants que nous les entretenons dans la croyance au Père Noël, leur ferveur nous réchauffe, nous aide à nous tromper nous-mêmes. » Mais il se trouve que nous avons décidé de convier autour de ce temps des écrivains deux auteurs qui s'adonnent à ce que l'on appelle peut-être abusivement la littérature jeunesse. Et deux auteurs qu'on est vraiment impatients d'entendre, Rebecca d'Outremer, d'abord, dont le Midi Pile est un monument de poésie, de minutie, de beauté, de tendresse, c'est aux éditions Sarbacane. Bonjour Rebecca d'Outremer.
Bonjour.
Et Jean-Philippe Arouvignaud, que je lis depuis longtemps, l'idole, le pape, le messie cosmoplanétaire des collégiens, qui le lisent, lui, l'agrégé de lettres, l'ancien professeur aux millions d'exemplaires vendus, des enquêtes au collège. Elle fait, ces enquêtes, leurs 30 ans cette année.
Oui, bonjour Christophe. Quand on commence à vous traiter de pape, c'est que ça sent le sapin.
Oh, c'est joli, il y a une allitération intéressante. Je sais que vous aimez ces jeux-là stylistiques dans vos livres. 30 ans, effectivement, ces enquêtes au collège, cette année, est publié « L'élève qui n'existait pas ». Sacré programme aux éditions Gallimard, surtout quand on est un ancien professeur. « L'élève qui n'existait pas », c'est absolument philosophiquement très très problématique.
Ça a commencé avec « Le professeur a disparu », ça se termine avec « L'élève qui n'existait pas ». Donc ça en dit long sur la considération que j'ai pour le métier d'enseignant. Voilà. Visiblement, il faudra que j'en parle à mon psychanalyste.
Voilà, ça vous manque pas?
Non, parce que j'ai la chance, en tant qu'auteur jeunesse, d'aller rencontrer souvent dans les établissements scolaires des enfants. Et au fond, j'ai le meilleur de ce qui se passe dans ces instants-là, c'est-à-dire une espèce de communion, de ferveur autour du plaisir de lire, du plaisir d'écrire. Il n'y a pas les dictées, il n'y a pas les contrôles, il n'y a pas les conseils de classe, les bulletins à remplir. Donc il y a une espèce comme ça de partage qui continue à durer. Pas de punition, pas d'heure de colle.
Voilà. Pas de confinement, comme on dit d'ailleurs dans les enquêtes au collège, quand ils sont privés de vacances, ils sont confinés à l'internat, les pauvres.
Voilà, les pauvres. En tout cas, c'est une menace que le principal fait peser sur eux.
Rebecca d'Outremer, j'ai rarement vu ça, tant de beauté et de délicatesse. C'est un objet aussi, ce livre. J'aime pas dire que c'est plus qu'un livre, parce que c'est un livre.
Ah,
mais
oui.
Un livre, voilà, un livre, je veux dire, au carré, au rectangle, une sorte de brique. Vous avez longtemps été illustratrice de récits qui n'étaient pas les vôtres. On vous doit notamment des illustrations de classiques comme Cyrano de Bergerac, Alice au Pays des Merveilles, aux éditions Gauthier-Langros, ou alors une illustration des fables de La Fontaine chez Magnard Jeunesse. Vous avez aussi illustré Soie de Baricot.
Pour les plus grands.
Et effectivement, ce n'était pas spécialement ancré dans l'univers de l'enfance, Baricot.
Non.
Et puis vous avez mené votre propre chemin d'autrice, toujours illustratrice, avec les histoires de Nasreddin au Père Castor, ou encore Le Bois dormait. Et c'est chez ce même éditeur que vous avez donné naissance à un personnage de lapin, prénommé Jacominus, nommé Gainsborough ou Gainsborough, je le dis.
Gainsborough, voilà. Ne nous fatiguons pas.
Très bien, Gainsborough, à la Gainsbourg alors en fait, comme il prononçait, il disait ça, Gainsbourg,
c'est
ça. Et son Gainsborough.
Oui, dont on ne sait pas très bien qui il est, ce Gainsborough.
Voilà, en fait ce lapin semble provenir d'un univers à la Dickens ou à la Beatrix Potter, on doit vous le dire toujours, c'est peut-être pénible en fait, à la longue. Non,
je l'assume volontiers, Beatrix Potter c'était une de mes références et un petit souvenir personnel de l'univers qu'elle avait créé, donc j'ai prénommé la grand-mère de Jacominus Gainsborough Beatrix,
donc je
l'assume,
y aller.
Allez-y franchement.
Très bien. Ouais. Vous retraciez sa vie à Jacominus Gainsborough dans les riches heures de Jacominus Gainsborough, comme un titre à la Sterne, un peu, on est toujours dans cette Angleterre-là.
De toute façon, je voulais qu'il y ait cette contradiction, enfin en tout cas ce mélange entre quelque chose qui est très mignon, très simple, c'est le petit lapin qu'on retrouve dans énormément d'albums pour enfants, et lui donner un vrai nom, un peu littéraire, un peu solennel, voilà.
Et c'est un monument, je disais, tout en finesse, que vous lui consacrez cette fois-ci à votre Jacominus, midi pile. Alors, comment le décrire? C'est, j'allais dire, un théâtre-livre à la deuxième personne, une sorte de diorama littéraire qui célébrerait les beautés de l'attente. Comment vous l'écririez?
Je vous laisse vous dépatouiller.
Comment vous diriez?
Alors, vous avez précisé que c'est un livre. Oui, c'est un livre. Il y a des pages, elles se tournent, il y a du texte sur chaque page qui se lit.
Jusque-là.
Jusque-là, tout va bien. On est en terrain connu. La particularité de ce livre, c'est aussi un livre qui se traverse. C'est-à-dire que dès l'ouverture de la première page, vous allez pouvoir voir la dernière page au fond. Pourquoi? Parce que chaque page est découpée et laisse voir un petit bout de la suivante. Tout ça sur 200 pages. Donc vous avez un espace qui est recréé dans l'épaisseur du livre, en plus. Donc vous avez la troisième dimension, en fait.
C'est vrai qu'on tourne les pages comme on pousserait, en fait, différents panneaux, la porte d'un salon, la grille d'un parc, on écarte les branches, et ainsi de suite, jusqu'à voir la mer et un bateau qui va partir.
C'est ça. Vous êtes obligé de tourner les pages avec délicatesse, puisqu'il y a, c'est un livre d'une grande fragilité, c'est vrai. Et ça oblige à faire très attention pour pas déchirer les petits éléments qui sont découpés. Et de toute façon, comme c'est un livre qui parle du temps, puisqu'il s'agit d'un rendez-vous, le temps passe, le temps presse, ou pas. Il y en a un qui prend son temps, il y en a un qui attend.
Et on ne sait pas qui c'est en plus. On ne sait pas si ce qu'on lit, c'est la progression finalement de celle qui doit rejoindre celui qui attend, parce que c'est celui qui attend qui parle.
On entend penser celui qui est au fond du livre et qui attend, et
on voit
celle qui se rend au rendez-vous.
Voilà.
Donc on est en caméra subjective.
Exactement.
Je pourrais dire, et on traverse le livre par les yeux de celle qui rejoint celui qui attend.
Ça irait le mot, vous avez parlé de caméra, ça irait si on parle d'une sorte de travelling.
Mais complètement. Ouais, c'est la meilleure description. Voilà. J'ai fini par trouver l'astuce pour arriver à décrire à la radio un objet très visuel.
On mettra un petit film sur le site pour montrer ce que
c'est. Moi, j'avais l'impression de voir une lanterne magique avec des projections comme ça d'images qui finissaient par produire une histoire. Et comme vous le soulignez, j'ai adoré l'idée qu'on parte d'une chambre un peu étouffante, très belle, avec de mobilier, etc. Et qu'on aille progressivement vers le large, le bateau et la mer jusqu'à l'instant de la rencontre.
C'est un peu la magie de ce livre et aussi la difficulté que j'ai eue pour le concevoir. C'est qu'on passe dans la même échelle d'un espace d'intérieur à un jardin, on sort du jardin, on passe dans des bois, sur une place de cirque, on arrive dans une ville, sur les docks, et jusqu'à un port, et jusqu'à la mer.
Et il y a des péripéties, hein. Va-t-elle arriver à temps? Je précise d'ailleurs pour les auditrices et les auditeurs que Midi Pile a obtenu la pépite du livre illustré au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.
Exactement.
Voilà, Jean-Philippe Arouvigneau, vous avez publié plusieurs romans chez Gallimard depuis Le Rideau de la Nuit. Je dis roman adulte, je précise. C'était votre premier roman en 1984, ou encore L'Homme du Cinquième Jour, qui avait obtenu le prix Renaudot des lycéens en 1997. Vous êtes également l'auteur du Discours des absents, prix Roland Jouvenel de l'Académie française en 1994. C'est un essai sur la lettre qui s'ouvrait par une phrase de Kafka tirée des lettres à Milena. Les lettres ne sont que tourments, c'est un commerce avec les fantômes. C'est un essai qui parlait d'amour et de séparation, ça va plaire à Rebecca d'Outremer. Et puis parallèlement, vous êtes lancé dans la littérature jeunesse. Alors, on va revenir sur cette appellation, avec le premier tome d'une série intitulée Enquête au collège, qui a connu un succès fracassant, qui continue d'ailleurs à le connaître, même si d'autres séries ont suivi, qui ont eu aussi beaucoup de succès, comme celle plus autobiographique, peut-être des histoires des gens quelque chose.
Tout à fait, c'est complètement inspiré de ma propre enfance, dans une famille de 6 garçons, et on s'appelle tous Jean quelque chose.
Voilà.
Il y avait un point de départ là pour
Jean quelque chose, donc Jean-Philippe.
Commencer. Voilà, Jean-Philippe, puis après, il y a Jean-Pascal, Jean-François, Jean-Baptiste, Jean-Noël, Jean-Charles.
Toute
et un papa
époque.
Qui s'appelle Jean-Louis, une maman qui s'appelle Jeannine. Donc, il y avait vraiment, pour un romancier paresseux, il y avait un point de départ qu'il fallait absolument saisir.
Publié entre 2000 et 2018, chez Gallimard aussi. Vous êtes d'ailleurs éditeur désormais chez Gallimard Jeunesse.
Chez Gallimard Jeunesse, depuis un certain nombre d'années, oui.
Et ça bride pas un peu la création d'être sur les manuscrits, sur les projets des autres?
J'ai pas l'impression, quand on a la chance d'éditer des gens comme Jean-Claude Mourlevat, Timothée de Fombelle, Éric Lhomme, Christophe Maury, tous ces gens-là, ou Anne-Laure Bondou, on a l'impression au contraire de se nourrir d'eux. Mmh. On admire ce qu'ils font et on se dit, waouh, comment est-ce qu'il fait ça? Sa magnifique page. Et on en fait son miel, je trouve, des textes des autres. Et puis j'ai démarré ça en ayant déjà un peu écrit. Donc j'avais le sentiment que mon univers romanesque était déjà en place, ma langue était déjà en place. On sait bien qu'il y a des auteurs qu'il faut éviter de lire quand on écrit, parce ouais. que... Enfin, moi, je suis très mimétique et j'ai tendance, effectivement... Je me rappelle quand je commençais, j'écrivais la littérature adulte, il y avait un auteur que je m'interdisais absolument de lire, c'était Nabokov. Quand j'avais lu Nabokov, j'écrivais du Nabokov. Naturellement, toute proportion gardée. Mais c'est un auteur qui habitait ma propre langue quand j'écrivais. Là, j'ai l'impression d'être arrivé à un stade de maturité où je suis pas trop...
Sujet à la contamination voilà. stylistique.
C'est ça.
On va le dire comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait prendre ce tournant, Jean-Philippe Arouvignaud, des romans adultes vers la littérature jeunesse?
Moi, je crois que je suis tombé dans les histoires comme dans une potion magique quand j'avais 8-10 ans. J'ai toujours adoré lire. Mmh. Mais la période 8-12 ans où j'ai découvert le Club des Cinq, le Clan des Sept, la série des Michel, les Langelot, Agents Secrets, plus tard Bob Moran, toutes ces séries de la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Verte, c'est vraiment ça qui a déclenché chez moi une espèce d'appétit boulimique de lecture. Et le sentiment aussi que, au bout du compte, peut-être les enfants ordinaires avaient une vie moins intéressante que les personnages ordinaires des romans que je lisais. Mmh. Et qu'au bout du compte, il fallait rester là-dedans parce que la vie d'un personnage, c'est des aventures, des enquêtes, des mystères, etc. Oui, mais et moi, je ne vivais pas ça dans ma vraie vie.
Mais il n'empêche que votre premier roman n'était pas un roman dit pour la jeunesse.
Alors forcément, on grandit. Je me souviens de mon père quand j'étais en première littéraire qui me dit, tu sais, il faudrait que tu arrêtes Bob Moran parce que tu as le bac de français au bout. Donc, je suis plongé dans la littérature classique. J'ai fait des études, j'ai fait normal sup, j'ai passé l'agrégation. J'ai écrit mon premier roman qui était un roman de mon âge, pour des gens de mon âge. Je sais que j'étais heureux d'avoir fait ce parcours-là, de publier dans La Blanche chez Gallimard. Et en même temps, je gardais un fond de nostalgie pour toute cette période, toute cette littérature d'enfance et cette énergie qu'elle porte en elle, ce flux comme ça de désir de vie, d'appétit des choses. Mais avec le sentiment que finalement c'était fini, que j'avais rompu avec cette enfance, que j'avais coupé les amarres et que voilà, j'étais... Je voguais là dans l'âge adulte définitivement et j'avais perdu ce contact avec les prairies de l'enfance. Et puis grâce à une éditrice, Geneviève Brisa, qui publiait son premier roman adulte en même temps que moi, elle m'a dit « Mais j'ai l'impression que dans tes livres adultes, il y a encore cette fibre, ce lien fort avec ton enfance. J'ai une collection, écris quelque chose. » Et je me suis lancé là-dedans avec une espèce de bonheur. Mon premier roman, Le professeur a disparu, je l'ai écrit en 15 jours, dans un état de fièvre incroyable. Toute mon enfance m'était redonnée d'un coup. C'était une impression absolument magique.
Et vous continuez, vous avez des projets pour adultes? C'est-à-dire faire l'autre chemin? Ou c'est, pour le coup, c'est cassé, ça?
Progressivement, ça s'est défait. Pendant un temps, j'écrivais un livre adulte, un livre jeunesse. Et depuis maintenant de nombreuses années, je n'écris plus pour les adultes. À part un essai sur l'écriture que j'ai publié récemment.
On en parlera tout à l'heure. Rebecca D'Outremer, vous oscillez, vous aussi, entre les projets dits pour les adultes et dits... Vous voyez les précautions que je prends, vous voyez mes intentions. Dit pour les enfants, vous allez continuer à osciller
ou... Alors, c'est vrai que, comme vous le disiez aussi, j'assume plus volontiers le rôle d'auteur-illustrateur. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'accompagner les mots d'image et que l'image donne sens au mot et que le mot donne sens à l'image.
Mais vous pourriez le faire pour des adultes.
Oui, mais alors j'ai des projets. Alors là, je suis en train de travailler sur un texte qui n'est pas de moi, en l'occurrence des souris et des hommes, où je suis en train de mettre en image le roman de Steinbeck. Et je suis en train de tester des choses du rapport texte-image, justement, comme ça. Et j'ai bien un projet pour adultes, mais ça sera du roman graphique. Et j'ai envie d'écrire davantage, oui. Mais j'ai besoin d'images, moi, pour...
On va parler de ce jeu, entre les images et les mots. Je dis un mot quand même du nouveau volume d'enquête au collège, Jean-Philippe Arouvignaud, donc intitulé « L'élève qui n'existait pas chez Gallimard ». Alors les lectrices et les lecteurs retrouveront les trois compagnons du collège Chateaubriand, un premier de la classe, un redoublant, une jeune camarade qui ne le laisse pas indifférent. D'ailleurs, il y a un geste fort, j'ai rien dévoilé, mais un geste fort. Il s'agit aussi des premiers émois amoureux. On parlait de l'attente tout à l'heure, c'est une attente amoureuse chez vous, Rebecca D'Outremer. Je donne leur nom à Rémi, Pierre-Paul-Louis de Culbert, alias Pépé Culbert, et Mathilde, donc la fameuse Mathilde. Ils vont devoir cette fois démêler le mystère d'un jeune garçon trouvé en pleine nuit dans les couloirs du collège, qui se sert dans les cuisines de la cantine et s'abrite dans une maison voisine du pensionnat, une maison pas très hospitalière. On mène l'enquête au CDI, il y a une infirmerie qu'on surnomme la morgue, une lampe torche qui fait du morse, on parle même d'honneur à laver. Est-ce que vous diriez qu'on est dans le polar, genre a priori destiné aux adultes?
Je dirais peut-être qu'on est dans une aventure policière. On est davantage dans le domaine de l'aventure, même si cette aventure reprend quelques éléments du polar, comme la quête d'indices, les déductions. Et Pépé Cuvert est un grand spécialiste de la déduction, parce que c'est un esprit absolument faramineux. Il va très très vite et en même temps, il est très imaginatif, donc il part souvent sur des choses qui sont tout à fait des fausses pistes. J'ai eu l'impression avec cette série-là que c'est né pour moi d'un film plus que d'un livre. C'est Les Disparus de Saint-Agile, qui est un film qui m'a bouleversé quand j'étais enfant. J'ai eu l'impression que on pouvait inscrire le mystère, on pouvait inscrire l'aventure dans le cadre d'un établissement scolaire qui a priori en est plutôt dénué. Dans celui-ci, enfin, j'avais envie...
Depuis J.K. Rowling,
bien sûr,
quand même,
bien
avec
sûr,
Poudlard.
Bien sûr. Et dans celui-là, j'avais envie de rester dans le huis clos. On reste dans le collège, on a juste cette maison abandonnée en face du collège, et on concentre au maximum les effets de claustration de ces enfants, et en même temps de liberté, parce que les adultes sont présents, bien évidemment, ils sont là pour assurer
le maintien de l'ordre.
Le maintien de l'ordre, mais en même temps, ils sont hyper discrets, parce qu'ils ont leurs affaires à faire, et voilà. Donc c'est une petite vie d'enfants entre eux, ou d'adolescents entre eux.
Alors je voulais commencer cette émission en convoquant Proust et sa fameuse phrase dans le Contre Sainte-Beuve, sur, justement, ce qui serait la littérature de jeunesse. Et Proust, il dit ça. En outre, il est aussi vain d'écrire spécialement pour le peuple que pour les enfants. Ce qui féconde un enfant, ce n'est pas un livre d'enfantillage. Pourquoi croit-on qu'un ouvrier électricien a besoin que vous écriviez mal et parliez de la Révolution française pour vous comprendre? D'abord, c'est juste le contraire. Comme les Parisiens aiment à lire des voyages d'Océanie et les riches des récits de la vie des mineurs russes, le peuple aime autant lire des choses qui ne se rapportent pas à sa vie. De plus, pourquoi faire cette barrière? Un ouvrier peut être baudelairien. Magnifique phrase de Proust. Est-ce que, selon vous, il a raison? Est-ce qu'il s'agit pour vous, dans votre travail d'auteur, d'éviter les enfantillages, Rebecca, notre mère?
Ah ouais, moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Je connaissais pas, mais je vais l'apprendre par cœur, je pense. Mais pour ce qui concerne l'enfance, c'est vrai que, en plus, moi, j'en ai le témoignage direct par les lecteurs. Je ne cherche pas spécialement à m'adresser à eux. D'abord, je travaille pour moi, pour mon plaisir. J'ai ces souvenirs qu'évoquait Jean-Philippe de plaisir de lecture et de voilà des mondes qui sont peut-être plus accueillants pour les enfants, mais je m'en soucie pas trop. Et je sais parce que j'ai des souvenirs personnels que les enfants s'intéressent aux histoires d'adultes comme les ouvriers vont s'intéresser aux histoires de voyageurs, ou à Baudelaire. Il y a aucune raison. Surtout, il faut faire ça. Par exemple, dans ce livre des Rigières de Jacominus, je parle de la mort de ses proches, etc. C'est un exemple, hein, mais j'ai
et
des retours
de sa mort à lui.
Il arrive au bout de sa vie, il meurt, et j'ai des enfants qui viennent me dire « Ah, la page de l'enterrement de la grand-mère, c'est ça qui me plaît. » Et j'ai fait ça parce que j'ai des souvenirs d'enfance personnelle où j'adorais écouter les histoires des grands. Je comprenais pas tout, il y avait des histoires de machin à tromper bidule, et puis l'héritage, les histoires d'argent, les histoires de couple, des histoires de mort, de suicide, tout ça. Moi, ça m'intéressait quand j'étais enfant. J'aimais aussi les histoires de petits ours bruns, mais j'aimais les histoires d'adultes que je comprenais à moitié, et c'est ça qui fait grandir, quoi.
Et vous, Jean-Philippe Arouvignot?
Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il évoque le livre pour enfants dans lequel j'ai été élevé, moi. On parlait livre pour enfants. Aujourd'hui, comme vous le dites, on parle de littérature jeunesse. Ouais. Moi, j'aime bien l'absence de prépositions. On est dans un registre singulier de la littérature. Mais on n'est pas dans des textes qui ont été élaborés, écrits, voire travaillés sur le plan marketing pour des enfants. Et dans les ateliers d'écriture que je mène autour de l'écriture jeunesse, j'essaie de dire ça d'abord aux gens qui sont là. N'écrivez pas pour les enfants, écrivez à hauteur d'enfance. Ouais. Je crois que c'est une façon simplement de considérer le monde, de le raconter, de le percevoir, que la littérature jeunesse peut porter. Et on voit bien comment cette littérature jeunesse est lue aussi par des adultes. Donc ça n'est pas... Il n'y a pas une cible, un lecteur, un livre de Rebecca d'Outremer se lit à tout âge.
Surtout qu'il se lit souvent à deux, justement. Il y a le côté aussi de littérature orale et visuelle. Mais qu'est-ce que dirait justement le normalien et l'agrégé de lettres sur cette curieuse, justement, expression, même grammaticalement, littérature jeunesse, sur cette absence de préposition? Ça veut dire quoi, littérature jeunesse, justement?
Oui, c'est très curieux. Littérature de jeunesse, littérature pour la jeunesse. Et souvent, on voit bien dans les journaux comme les
titres... Qui vous redonne la jeunesse, peut-être?
Ouais, qui redonne la jeunesse. Oui, moi, je dirais que c'est une littérature qui est animée par un souffle, par une énergie, qui est l'énergie de l'enfance.
Mais il y a une littérature vieillesse, alors?
C'est ce qu'on dit, nous.
Ah bon, c'est ce que vous dites.
Dans les salons, oh, la vieillesse.
Vous savez, souvent, j'ai l'habitude de citer deux phrases. La première de Proust, « Comment commence la recherche du temps perdu ? Longtemps, je me suis couché de bonne heure. » Et un livre de Christophe Maury qui dit « Ce matin-là, Mathieu Hidalgo se réveilla d'excellente humeur. » C'était la première fois qu'il avait 10 ans. Donc, dans la littérature jeunesse, on se lève au début du livre. Dans la littérature adulte, on se couche au début du livre.
Très très bien, j'adore ça. Est-ce que vous ne prenez pas quand même la mesure, même si on n'écrit pas pour justement un certain public, il y a quand même, alors peut-être moins chez vous Rebecca D'Outremer, parce que l'image a beaucoup plus d'importance, même si le texte est essentiel, mais le texte est minime, on y reviendra tout à l'heure. Mais chez vous, Jean-Philippe Arouvignaud, même s'il y a des, il y a un illustrateur, Serge Bloch, qui dessine, mais c'est un roman. Il y a quand même une histoire de ton et une histoire de langue à trouver. Et c'est une langue, quand même, que vous devez travailler pour qu'elle soit accessible à un certain public. Donc il y a quand même l'idée d'écrire pour un public jeune.
J'écris pour quelqu'un, mais c'est pour moi. Comme le disait Rebecca tout à l'heure, j'écris les histoires que j'ai envie d'écrire pour moi. C'est dans un deuxième temps seulement que je me dis ce livre doit aussi accueillir des lecteurs. Et où je vais essayer que ma langue soit un peu plus simple qu'elle ne l'était. Oui. Mais je crois que si on écrit à hauteur d'enfance, les mots, le ton, la perception qu'on a du monde et la façon de le rendre est à hauteur du lecteur. Mmh. Ça ne doit pas être un effet de recherche. Je crois que les enfantillages dont parle Proust, c'est ça. Mmh. C'est une façon d'aller par la contorsion, par la pirouette, vers une langue simple. Pliste, simplette. Vous savez ce que disait Cocteau, une phrase qu'il avait entendue, si on avait su que c'était si bête, on aurait emmené les enfants. Phrase terrible.
Ouais. Donc, mais ironique aussi.
Voilà. Et se dire que, on va aller vers une langue simpliste ou simplette pour les enfants, je crois que c'est faire une très grosse erreur. Et les enfants ne sont pas dupes de ça.
Est-ce que vous ne vous sentez pas l'un et l'autre quand même? J'ai utilisé un mot fort, mais j'y vais, le mot de mission. Vous dire, voilà, c'est à travers moi que va s'opérer finalement cette transmission de la littérature, la transmission d'un goût aussi pour les mots, pour une certaine beauté formelle, pour un imaginaire, pour une peur qui n'est pas étrangère aussi au plaisir. Est-ce que vous sentez une responsabilité, une mission particulière ?
Alors moi, oui, je la sens parce que je la vois, je la constate. On rencontre, comme disait Jean-Philippe, des enfants dans le cadre des salons, dans les classes, etc. Et des fois, on voit que certains sont très touchés, vont prendre les personnages de nos livres avec force. Ils y croient, ils ont envie de, voilà, ils sont émus, ils ont partagé, voilà, des peurs, des angoisses, des joies. Et on se dit, oh là là, c'est fort, quoi, c'est très fort. Alors je le sens. Mais pour autant, je me sens parfois démunie pour maîtriser ça. Au Salon du Livre de Montreuil, le Midi Pile, ce livre un peu particulier qu'on essaye de décrire, a eu le prix. C'est un jury d'enfants qui a décerné le prix. Et j'ai vu, j'étais vachement émue de recevoir le prix par eux. Il y avait des enfants plus ou moins grands. Et il y avait une toute petite fille, enfin elle était petite en taille, et j'imagine qu'elle devait pas avoir plus de 6-7 ans, qui me regardait. Elle, je me suis dit, ouais, elle est rentrée dedans, elle était contente, elle voulait que je lui signe le livre, elle connaissait les personnages, je me suis dit, j'ai fait quelque chose, elle l'a reçu à fond. Et est-ce que j'ai su qu'elle allait éprouver ça? Non. Est-ce que je pouvais pas le parier?
Mais quand vous écriviez, vous ne pensiez pas, j'ai l'intention, j'ai le
désir.
Bien sûr,
j'ai des intentions, j'ai des doutes. Je me dis, tiens, même pour en racontant la vie d'un petit lapin et en disant qu'il va mourir et que sa grand-mère meurt, machin, j'essaye de transmettre des choses, mais je n'ai absolument aucune certitude. Donc je vois bien que les choses peuvent fonctionner ou pas. En l'occurrence, là, je trouve qu'elles fonctionnaient pas mal sur ce livre-là. Très bien, même. Mais j'étais pas sûre de mon coup. C'est ce que je veux dire. Donc la responsabilité, je la sens, mais je contrôle les choses de façon... C'est difficile, quoi. Voilà.
Jean-Philippe Arouvignaud, une autre citation, Jean Genet, qui disait que créer, c'est toujours parler de l'enfance. Quand vous écrivez justement ces enquêtes au collège ou vos autres séries, est-ce que vous pensez à votre lecteur ou est-ce que vous suivez uniquement la pente dont vous nous parliez tout à l'heure de votre propre enfance? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une considération, une intention vis-à-vis de ce lecteur invisible? Enfin, vous en connaissez certes beaucoup, puisque ils reviennent depuis 30 ans, vous devez retrouver des visages familiers aussi.
Il y a quelque chose de magique là-dedans, dans le fait de se dire que ce qu'on a écrit et qu'on a, j'insiste là-dessus, vraiment écrit pour soi. Les histoires que je me raconte, j'y crois. J'essaie pas de trouver des univers qui puissent coïncider avec ce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent aimer. J'écris vraiment
c'est
les livres
le
qui m'intéressent.
C'est même le contraire d'ailleurs, parce que dans vos univers, il y a pas justement ni les écrans. On joue au subutéo.
Voilà, on joue au subutéo. On n'a pas de téléphone portable. Voilà. Mais je pense qu'aussi c'est une façon de ne pas périmer ses propres livres, parce que de donner un nom de jeu, un nom de marque, faire parler les enfants comme ils parlent aujourd'hui, c'est d'une certaine façon faire que l'an prochain c'est terminé. Voilà. Mais un écrivain, à la fois, il erre en lui-même, il travaille avec son propre imaginaire, mais je crois aussi qu'il est dans une démarche de générosité, il offre des histoires. Donc c'est dans ces deux temps-là, moi, que j'ai l'impression que je rentre en lien avec mon lecteur, et avec le sentiment, comme le disait Rebecca, et comme vous l'évoquiez, plutôt pour moi d'une responsabilité que d'une mission. J'aimerais que mes lecteurs sortent de mes livres en se disant « Waouh, qu'est-ce que c'est bien de lire !» Et il y a dans le monde des millions de livres qui n'attendent que moi pour m'émerveiller, pour que je les ouvre. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est bien de vivre? J'aimerais qu'il y ait ce double détente. Parce qu'on est dans cette phase...
C'est lire, c'est vivre?
Pas tout à fait. Je crois que lire enrichit, élargit la vie, démultiplie la vie.
C'est ce que disait Umberto Eco. Si vous voulez vivre une seule vie, surtout ne lisez pas.
C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais pas que de faire de mes lecteurs des petits taupins là qui seraient en permanence dans les bouquins parce qu'ils ont peur du monde et et des autres. Je crois que les livres c'est aussi des refuges contre la vie, mais c'est aussi des tremplins vers la vie.
On continue avec vous, Jean-Philippe Arouvigno, et vous, Rebecca D'Autremer. On va d'ailleurs commencer par Rebecca D'Autremer qui publie Midi Pile chez Sarbacane. Jean-Philippe Arouvigno publie Enquête au collège, l'élève qui n'existait pas, c'est le tome 8 chez Gallimard Jeunesse. On écoute votre choix musical, Rebecca D'Autremer. Vous avez choisi le Lamento de la Ninfa par Anne Brun ou Brune, je ne sais pas comment on dit. Elle est autrice d'ailleurs, compositrice, interprète norvégienne. De folk, c'est votre choix, on l'écoute.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Oh, love, right from the start, we were old love, like we never been parted. Kissed me, your hands down my side to my hips, dear. Shivers and sighs, oh, the breathing from your mouth through mine. I got high on this hunger for one more time. Lover of mine, when I kissed you, I felt so dead. This tale to me, well, I won't believe that I'm already here. Tell this tale to me.
Lamento de la Ninfa par Anne Brun, de son vrai nom Anne Brunvoll, donc ça doit être Anne Brune, Rebecca D'Autremer,
oui,
née à Molde en mars 76, autrice, compositrice, interprète norvégienne de folk. C'est votre choix, vous vouliez nous la faire entendre, pour quelle raison?
Oh, c'est drôle, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Chaque période d'écriture et d'illustration d'un livre est souvent attachée à un album ou à plusieurs moments de musique. Et là, ça me renvoie à l'été 2010, je pense, où j'avais travaillé sur un livre et sur des... En l'occurrence, là, c'était pas de l'écriture, c'était un projet de théâtre que j'avais fait pour le théâtre Amstramgram à Genève. Et j'avais travaillé sur l'illustration de Soie de Marico. J'écoute beaucoup de musique et de choses en travaillant.
En travaillant, qu'est-ce que ça... Est-ce que du coup, on retrouve dans certaines pages de vous les impressions musicales de ces écoutes dans l'atelier?
Alors, c'est l'objet de plaisanteries entre nous, illustrateurs. Là, je parle vraiment d'illustration parce que l'écriture ne permet pas d'écouter quoi que ce soit. Mais rien à voir. C'est-à-dire que je peux écouter des horreurs, que ce soit en podcast ou en musique, de la musique super trash, et dessiner des petits lapins super mignons. Ça n'a strictement rien à voir. Mais ça permet justement de sortir des fois un peu de l'univers qu'on est en train de faire et qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Et si je restais coincée dans le même univers en permanence, ce serait compliqué.
Jean-Philippe Arouvigno, vous, Rebecca disait, on ne peut rien écouter quand on écrit, vous souscrivez à cette...
Oui, j'ai ce sentiment-là qu'il m'est arrivé d'essayer d'écrire avec des musiques qui me semblent adaptées à ce que j'avais envie d'écrire. Et en fait, je m'apercevais que j'avais été porté par le lyrisme de la musique. Et le lendemain, en lisant, tout d'un coup, sans musique, c'était juste nul, quoi. C'était pas la scène qui produit l'émotion, c'est ce que j'entendais. Et puis, il y a une espèce, moi, je sais pas, il y a une captation par la beauté de la musique qu'on entend qui fait qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on écrit. Moi, j'ai besoin absolument de silence et de m'enfoncer comme un scaphandrier dans la scène que j'écris.
Jean-Philippe Arouvigno, Enquête au collège, l'élève qui n'existait pas. On est avec vous pendant une heure et avec vous, Rebecca D'Autremer. Midi pile, c'est chez Sarbacane. Alors, c'est un livre qui ressemble à un décor de théâtre, qui ressemble à un diorama, qui pèse son poids, mais qui est extrêmement agréable aussi au toucher, qui nous raconte une histoire toute simple. Comment le lapin Jacominus Gainsborough, qu'on avait déjà rencontré dans Les riches heures de Jacominus Gainsborough, que vous aviez publié aussi chez Sarbacane, c'est votre personnage de lapin. Il a donné rendez-vous à Douce, à midi pile sur le port. Il a quelque chose de très important à lui dire. Il s'adresse à elle à la deuxième personne du singulier. On sent que l'attente le brûle. Il s'inquiète de savoir si elle viendra, si elle arrivera à temps, d'où le titre, midi pile. Et nous, pendant ce temps-là, on croit qu'on suit la progression de Douce parce qu'on est dans la tête de Jacominus. On tourne des pages qui sont comme des tableaux, une chambre, une maison, la rue, le cirque, le marché. Chaque tableau se présente sur la page comme l'annonce d'un autre tableau encore plus saisissant. Alors on tourne l'autre page, on regarde, on lit le court texte qui l'accompagne, on en tourne une autre comme des rideaux qu'on écarte qui sont autant d'écrans nous séparant de cette rencontre imminente qu'on attend, nous aussi, le cœur battant. Voilà, les volets, le portail, les branchages, pour arriver dans la ville et vers le port qui est ouvert vers la mer. Et le plus saisissant, ce sont ces plans successifs qui sont dessinés avec une finesse extrême et qui donnent à chaque image, aux couleurs douces, à l'atmosphère années 20, 30, enfin c'est comme ça que je le vois moi, un relief et une profondeur vraiment saisissante. C'est très beau, c'est très visuel, c'est délicat. C'est un livre qu'on manipule, je le disais, où la magie opère quand on le touche, quand on tourne les pages. Je dis magie, et en même temps, cette magie, elle est permise par une technologie très haut de gamme, puisqu'il s'agit de découpes superposées, réalisées au laser. Et je voudrais savoir quel regard vous portez sur cette alliance entre la poésie la plus ancienne du diorama, ou du décor de théâtre, et la présence aujourd'hui d'une technologie extrêmement affûtée.
Alors, à dire vrai, je pense que ce livre aurait tout à fait pu être fabriqué autrefois avec la technique de découpe qui n'était donc pas au laser, mais avec des empreintes, enfin des formes. Mais
oui, des emporte-pièces.
Voilà, je vous remercie. Mais c'est bien plus simple de découper, puisqu'on peut le faire maintenant avec un laser, et ça permet de faire des choses extrêmement fines. C'est déjà un très gros engagement de l'éditeur de fabriquer un objet pareil. Avec des emporte-pièces, ça aurait été peut-être impossible, parce qu'il y a 100 découpes différentes dans ce livre-là. Et alors, c'est vrai que c'est pas très joli d'imaginer que ça a été découpé au laser, mais grâce à lui, on peut faire des choses qui sont vraiment de la dentelle de papier. Et je suis pas du tout la seule à l'exploiter. Il y a d'autres auteurs qui le font, mais c'est vrai que je crois pas avoir vu beaucoup de livres creusés dans toute l'épaisseur. Voilà.
Mais vous dites, c'est pas très joli ici. Si, il y a un côté chirurgical, précision, et au fond, on travaille aussi avec ces technologies-là qui peuvent nous permettre, grâce auxquelles justement on a ce livre à un prix qui reste d'ailleurs abordable.
On parle de fabrication, mais comment ça se conçoit pour toi un livre pareil? Est-ce que tu as travaillé avec des calques successifs? Comment pratiquement tu as imaginé et fabriqué ce livre dans ton atelier?
Alors, voilà, Jean-Philippe Arouvigno, question.
C'est l'une des difficultés de la conception de ce livre, c'est d'arriver à combiner et à disposer les pages les unes derrière les autres, de telle sorte que les éléments se dévoilent au bon moment et en rapport évidemment avec le texte, ça va de soi. Parce que l'idée, c'est toujours de lire la petite phrase, et il y a très souvent, presque à chaque page, un lien évidemment entre les considérations de Jacominus qui attend que sa Douce arrive, et donc il s'imagine où elle est et à quel point elle en est de son chemin et de sa route, voilà. Donc lui, il pense savoir un peu ce qu'elle est en train de faire, et nous, on voit ce qu'elle est en train de faire. Et il y a toujours un petit lien entre le texte et l'image. Alors, il y a déjà ça comme problème à régler, et en en plus, physiquement, à cacher tous ces éléments qui doivent se dévoiler au bon moment et faire en sorte que le bateau qui est au fond du livre ne soit pas dans la chambre dès le départ ou qu'il y ait un arbre dans le salon. Enfin, voilà.
Oui,
c'est
en même temps,
c'est un casse-tête infernal.
On devine le bleu de la mer parce qu'en fait, la particularité de ce livre, c'est qu'il y a des trous. Il est percé. Voilà. Ces 200 pages sont percées, c'est de la dentelle. Et à travers justement ces petits interstices dans la dentelle, on devine, si on l'éclaire un peu, le bleu
alors,
de la mer.
C'est assez joli en fait d'ouvrir la couverture de fin. Vous pouvez vous amuser avec vos enfants ou pas avec vos enfants à vous mettre dans le noir. Il faudrait le faire dans une salle plus sombre. Et vous vous amusez à éclairer les pages les unes derrière les autres. Et vous allez avoir l'ombre des pages les unes sur les autres. L'arbre qui va mettre son ombre sur la page suivante. Les pages sont comme des éléments de décor de théâtre les uns derrière les autres. Et on recrée un espace. Donc ça a tout d'un livre, mais vous avez la dimension théâtrale en plus.
Je voudrais qu'on vous écoute lire justement le sorte d'avertissement aussi à votre jeune ou moins jeune lecteur. C'est la première page, justement celle qui ouvre sur l'image la plus complète, en fait, la plus lourde, hein, vous disiez Jean-Philippe Arouvigno, c'est-à-dire pleine de détails qui vont peu à peu s'éclipser pour arriver vers la mer.
Alors, je vous précise, je ne sais pas si ça vous intéressera. Depuis que je travaille là avec Sarbacane, c'est mon troisième livre avec eux, et j'ai eu envie, en prenant en main un peu mon rôle d'auteur, de à chaque fois m'adresser au lecteur en préface et de beaucoup travailler ma préface. Alors, pour ce qui est de Midi Pile, voilà ce que c'est. « Toi qui tiens ce livre entre tes mains, je te remercie de l'avoir choisi. Il n'est pas ordinaire, n'est-ce pas ? C'est sûrement ce que tu as pensé quand tu l'as vu pour la première fois. En effet, ce livre qui te fait hausser le sourcil et retenir ton souffle, tu t'apprêtes à le traverser. Je ne suis pas en train de prétendre que c'est un livre à lire entre ses lignes ou que tu vivras à sa lecture une aventure spirituelle et transcendante. Non, je te dis que tu vas traverser ce livre pour de vrai. Bien sûr, tu peux le traverser avec les doigts, ou avec les pieds d'ailleurs, chacun sa méthode pour traverser un livre. Mais reste délicat, car le passage est très étroit et tu risques de faire des dégâts sur le chemin. Si tu choisis plutôt la traversée avec les yeux, c'est la méthode que je conseille, tu pourras découvrir ce qui se passe là-bas, au fond. De cette manière, tu laisseras l'endroit comme tu l'as trouvé en entrant. Cela te permettra de revenir sur tes pas sans risquer de te perdre et d'inviter quelqu'un à refaire la route en ta compagnie. Tu le guideras à travers les pages et tu sauras lui indiquer les endroits les plus accueillants. Bref, si tu traverses avec les yeux ce livre-là, tu pourras t'y réfugier, bien peinard, autant de fois que tu en auras besoin. Et crois-moi, c'est une sacrée chance d'avoir un endroit où se réfugier bien peinard en cas de besoin. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne et belle traversée.
Merci Rebecca d'Outremer. Qu'est-ce que signifie justement cet avertissement ? Pourquoi est-ce que vous disiez « je soigne mes préfaces » ? C'est une tradition littéraire aussi, l'avertissement au lecteur. Quel sens elle a chez vous, justement, cette reprise de la tradition ?
Alors, il y avait déjà ce côté traditionnel que je trouvais vraiment charmant. Et puis, je crois que vraiment très personnellement, je suis arrivée un peu intimidée dans l'écriture vis-à-vis du lecteur. J'ai écrit d'autres albums par le passé, mais je me cachais toujours derrière les dialogues. Donc c'est toujours mes personnages qui parlaient. J'avais jamais osé dire un tel a fait ceci, il était une fois cela. Voilà, j'avais jamais écrit de cette façon-là. Et la première fois que je l'ai faite, j'ai eu besoin de dire bon voilà j'ai fait ça, mais de m'expliquer un petit peu, de me présenter, et ça m'a permis de me sentir plus à l'aise. J'avais besoin de me présenter parce que c'était mes premiers pas en tant qu'auteur.
Jean-Philippe,
j'aime beaucoup cette définition du livre jeunesse, un endroit où on peut se réfugier, où on peut être peinard quand on lit. C'est très beau, je trouve.
Oui, peinard, vous aimez d'ailleurs Jean-Philippe Arouvigno nous redonner à goûter ces mots comme voilà, pioncer, peinard, il y a ça aussi. Il y a différents niveaux de langage d'ailleurs dans les enquêtes au collège.
Oui, tout en essayant de ne pas coller à un langage qui serait trop contemporain, mais faire jouer des mots que je trouve qui ont une saveur, qui sont agréables en bouche et qui sonnent, même si ça n'est plus un argot d'aujourd'hui, je pense que ça fait écho dans l'esprit du lecteur.
Alors, il faudrait, Rebecca d'Outremer, parler de ce nom, hein, Gainsborough. Est-ce que c'est un hommage au peintre, hein, Thomas Gainsborough, artiste, peintre, graveur de Grande-Bretagne, un des plus grands portraitistes et paysagistes du XVIIIe siècle. On pourrait reparler de Beatrix Potter. Je voudrais juste vous demander, vous qui avez commencé par dessiner plutôt des humains, notamment, vous a ennuyé beaucoup avec ça, des princesses, même si ces princesses n'avaient qu'un œil, ou de la barbe parfois. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à dessiner des animaux ? Et puis un lapin qui est quand même dans l'univers justement de la littérature jeunesse. Alors l'animal, enfin, j'allais dire l'animal arpenté oui. Et dessiné par tout le monde. Voilà. Encore un lapin.
Encore un lapin, mais c'est justement parce que c'était encore un lapin que j'ai voulu le faire. Cet univers de Jacobinus Gainsborough, il est un peu double. Je voulais, un peu de façon, je suis fourbe, je voulais attirer les enfants vers quelque chose d'assez, qu'ils connaissent bien, assez facile. Oui, c'est un petit lapin, j'ai tout fait pour qu'il soit, mais le plus mignon possible.
Ah, il est dufteux, on
sent. Je l'ai dessiné poil à poil, les enfants que je vois dans les librairies, lors des salons, ils voient le livre et c'est la première fois que je vois les enfants commencer par caresser le livre. Ils s'approchent, il y en a qui le mettent sur leurs joues. C'est ce que je voulais, je les ai bien eus, c'est ce que je voulais faire. Et ce qui me permettait ensuite, après, de parler dans le texte et de m'exprimer de façon plus du tout enfantine pour le coup, et d'avoir des considérations sur la vie et la vie de ce petit lapin que je raconte, qui ne sont pas forcément enfantines, qui ne sont pas faciles, et ça marche. Je dois vous dire que ça marche. Je vais jusqu'à la mort de mon petit lapin.
Je le montre,
aussi mignon qu'il soit.
Vous ne le voyez pas.
Mais il est bien mort.
Petit lapin qui a vieilli, qui est arrivé au bout de sa vie. Ça, c'est dans Les Très Riches Heures de Jacobinus Gainsborough, et avec sa béquille.
Et c'est ce que je voulais pour les enfants. Parce que je suis sûre, et maintenant j'en ai la confirmation, parce que le livre est sorti il y a un an, que oui, ils ont besoin de douceur, de choses confortables, accueillantes, et les petits lapins, un petit monde de petits lapins, c'est accueillant. Mais ils ont aussi envie de s'interroger sur des problématiques de la vie, quoi. Et ce mélange m'a permis, voilà, de m'adresser à des âges très différents.
Un mot sur la technique, il s'agit de...
C'est de la gouache, pour ce qui est de la peinture, c'est fait à la main. Donc maintenant, on dit traditionnel, mais ça me fait bizarre, c'est pas traditionnel, c'est juste la bonne méthode, à mon avis. Donc c'est sur du papier, aquarelle, et c'est dessiné poil à poil au pinceau.
Et y compris pour Midi-Pile.
Midi-Pile, toutes les images en couleur sont dessinées de la même façon. Chaque page, même s'il est découpé au départ, est un dessin à plat sur du papier aquarelle. Et ensuite, il y a cette technique au laser pour découper la page, mais le principe est tout à fait le même.
Ça vous donne envie, Jean-Philippe Arouvignaud aussi, ça vous donnerait envie de travailler sur l'image, justement. Il y en a quelques-unes, Serge Bloch illustre les enquêtes au collège, mais de développer encore, l'image. Vous ne dessinez pas, vous, mais
je ne dessine pas. Voilà. J'ai travaillé avec quelques illustrateurs. J'ai fait avec Olivier Talec, le grand Olivier Talec, une série d'albums pour les tout-petits, Rita et machin. Et puis j'ai eu la chance aussi d'être illustré dans un très bel album par Jean-Claude Goetting, dans Le Prince Sauvage et la Renarde. Ah oui. Et je trouve que ça aussi, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime être un auteur jeunesse. C'est parce qu'on a la chance d'être, que notre travail soit magnifié, ennobli par d'autres artistes. Ce qu'on a rarement la chance de pouvoir vivre quand on est auteur adulte, même si Baricot a eu la chance d'être illustré par Rebecca. Mais voilà, j'aime beaucoup l'idée que notre univers, nos histoires, tout d'un coup, soient prises en main par un artiste qui va les magnifier.
Et est-ce que tu as travaillé, par exemple, avec Olivier Talec en collaboration, ou tu as, comme ça se fait à 99% du temps, fait ton texte, et lui, comme tu dis, il est arrivé derrière, en tout cas dans le temps, et il l'a en oubli, c'est mieux. Mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir imaginer, et c'est pour ça que je me suis mis aussi à écrire, que justement, l'auteur et l'illustrateur collaborent ensemble et avancent ensemble leur projet, et que l'image ne soit pas là que pour ennoblir, même si c'est déjà pas mal, mais voilà, puisse composer l'histoire et servir l'histoire ensemble, et que le code visuel et le code écrit se combinent pour pouvoir raconter quelque chose. Comment tu as travaillé,
l'expérience de Rita et Machin était passionnante pour ça, parce que les deux personnages sont nés sous la plume d'Olivier, sous le crayon d'Olivier. Il me les a proposés.
Rappelez-nous le titre
de Rita et Machin. En me disant, voilà, ces petits personnages, j'ai l'impression qu'ils pourraient vivre des histoires, qu'ils pourraient être les personnages d'une série, mais je ne sais pas laquelle. Et on a travaillé vraiment, on a ensemble trouvé les noms, j'ai écrit une première histoire, ça lui a convenu. Cette histoire, il l'a lue, il s'est dépêché de l'oublier, il a dessiné sur le souvenir de cette histoire, ce qui a produit des dessins qui étaient en décalage léger par rapport à ce qui avait été fait, qui m'ont obligé à modifier mon texte. Et chaque album, on l'a fait dans une espèce de ping-pong, comme ça. Ça commençait toujours par un truc à la très enfantin et très garçon. Alors, il y aurait ci, alors on ferait ça, alors il pourrait se passer ci, une espèce comme ça de débriefing.
Avec ce conditionnel toujours,
voilà,
des jeux enfantins.
Il pourrait y avoir. Je rentre avec ça, avec cette espèce de truc informel, et j'essaie de construire une histoire à partir de ça, et lui rebondit là-dessus. Et on va jusqu'à, même au moment de la maquette, travailler ensemble sur cet équilibre texte-image pour que ce soit quelque chose qui soit l'émanation de nos deux imaginaires. Et à l'évidence, cette série-là sans Olivier, il est hors de question de pouvoir la poursuivre, et je crois qu'il dirait la même chose pour moi.
Alors là, vous êtes seul, enfin, même s'il y a les illustrations de Serge Bloch, vous êtes seul pour Enquête au collège, donc c'est le tome 8, Jean-Philippe Arouvignaud, qui paraît chez Gallimard Jeunesse, l'élève qui n'existait pas, donc 30 ans d'aventure. Alors, on retrouve, hein, je le disais tout à l'heure, les trois compères, Rémi Faramond, d'ailleurs vous avez dit Faramineux tout à l'heure, voilà. C'est important les noms hein, aussi.
C'est vrai, voilà. C'est vrai.
Pierre-Paul de Culbert qui devient Pépé Cuvert.
Pépé Cuvert.
Mathilde Blondin, donc ils sont au collège Chateaubriand et les garçons sont internes, hein, en fait, c'est un pensionnat. Ils sont toujours au collège 30 ans après, il y a un petit problème.
Et toujours en quatrième. Et toujours en
voilà.
Quatrième.
Le temps s'arrête pour les personnages de romans.
Oui, moi je me souviens toujours de ce club dessin qui était toujours visiblement dans la même année scolaire, qui était toujours en vacances.
Qui allait toujours en Bretagne.
C'est ça. Il arrivait toujours un truc différent. J'ai fait l'erreur sur une autre série que vous avez évoquée tout à l'heure, la série des frères Jean, de les faire grandir. À un moment donné, on se retrouve bloqué. Donc là, je me suis dit, ils vont rester éternellement dans cette classe de quatrième. Il y a tellement de possibilités pour leur faire vivre des aventures que c'est pas la peine de les faire grandir.
Mais les faire grandir pour basculer, ça serait intéressant. Des personnages que vous auriez pris pour faire des livres, disons, à hauteur, puisque c'est votre expression de la jeunesse, qui deviendraient après des personnages à hauteur du monde adulte. Pour la blanche, quoi.
C'est la grande réussite de J.K. Rowling avec Harry Potter. Ces personnages ont accompagné les lecteurs dans leur évolution.
Alors, ce nouveau volume de cette saga, hein, aussi scolaire que policière, commence une nuit à l'internat. Rémi est réveillé par le ronflement insupportable de Pépé, quitte le dortoir avec sa lampe en direction des toilettes et il tombe nez à nez avec un garçon de sixième, effrayé, qu'il ne connaît pas. C'est le fameux élève qui n'existait pas, qui donne son titre à votre roman. Qui est cet élève? Que fait-il là? C'est ce que devront trouver, découvrir vos héros, dans un roman qui convoque une lampe torche qui fait du morse toute seule à cause de ses piles défectueuses, une bibliothèque, ou plutôt un CDI, où les trois compères mènent l'enquête, une maison inhabitée qu'on appelle la maison personne, parce qu'il n'y a jamais âme qui vive, et même un butin prélevé dans une banque, il y a un braquage. Autant de code pris en fait au roman policier avec lesquels vous vous amusez comme un petit fou. Je le disais, hein, enquête policière, enquête scolaire. Un mot d'abord du décor que vous plantez pour votre intrigue. Je voudrais qu'on vous écoute lire un extrait de ce tome 8.
En arrivant sur la galerie extérieure, je n'en ai pas cru mes yeux. Il neigeait. C'était la première neige de l'année et la nuit la rendait encore plus magique. La cour était devenue blanche, les toits du collège miroitaient dans l'obscurité, pas une lumière aux fenêtres, tout était silencieux. Je suis resté un moment à regarder les flocons danser dans la nuit comme de minuscules fantômes, avant de m'apercevoir que je claquais des dents. Il n'y a pas que des inconvénients à être pensionnaire. Bien sûr, quand vos copains rentrent chez eux le soir, après les cours, ça vous tord un peu le cœur. Ils vont retrouver leur maison, leur famille. Alors que pour vous, c'est l'étude surveillée, le dîner au réfectoire et les ronflements dans le box d'en face qui vous empêchent de dormir. Mais à part les internes, qui peut avoir la chance incroyable de se promener la nuit dans le collège désert alors qu'il neige à gros flocons? À cette heure, le concierge a fait sa dernière ronde, les surveillants pioncent dans leur chambre, aucune chance d'être surpris. Sans bruit, j'ai dévalé l'escalier, en me battant toujours avec ma lampe torche.
Merci beaucoup Jean-Philippe Arouvignaud pour cet extrait donc de Enquête au collège, tome 8, l'élève qui n'existait pas. On sent ici hein, le jeu auquel vous vous livrez avec les codes hein, du roman noir ou des romans de détective. Vous parliez tout à l'heure du Club des Cinq. Est-ce que vous pensez que quand on écrit justement à hauteur de la jeunesse, on essaie ou on s'efforce d'adapter au fond un genre parent adulte pour justement ce public jeunesse? Est-ce que la littérature jeunesse serait fondamentalement une adaptation de ce qu'on fait quand on écrit pour les adultes? Et je vous pose la question à vous, car vous avez commencé par des romans, on le disait tout à l'heure, hein, prix Renaudot des lycéens, dans La Blanche, chez Gallimard, des romans dits pour adultes.
Je ne le sens pas comme une adaptation. J'ai l'impression que c'est plutôt, on travaille dans un genre littéraire, ici le roman policier, avec un registre particulier. Un peu comme un dessinateur, pardon Rebecca, tu me contrediras peut-être, mais un illustrateur va s'emparer d'un sujet et le traiter à sa façon, avec des techniques, gouache, plumes, pinceaux, etc., différentes. Et j'ai l'impression que on est plutôt là-dedans.
Je dis ça parce qu'il y a une dimension qui apparaît très très finement et fermement quand on vous lit, c'est le jeu, en fait, le clin d'œil qu'il a s'adresserait plus d'ailleurs à un lectorat adulte. Il y a cette phrase, par exemple, Rémi dit que Pépé a trop lu de bouquins policiers. D'ailleurs, il parle avec les codes du roman policier. Si nous nous en sortons vivants, rappelez-moi de vous rayer définitivement de mon testament. Plus personne dit ça aujourd'hui. Il est mort, n'est-ce pas? Je ne me le pardonnerai jamais. Le petit Blette n'a pas livré le fin mot de l'énigme, mais je veux avoir l'esprit frais pour l'interroger. Au fond, c'est assez paradoxal parce que les enfants qui vous lisent, si ce sont des enfants, n'ont pas les codes du roman policier d'adulte puisqu'ils ne les ont pas encore lus. Donc il y a ce jeu de décalage permanent.
C'est ça, mais je crois que c'est une façon de leur permettre de s'aventurer dans cet univers-là. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de créer un environnement dans lequel ils soient immédiatement à l'aise, dans lequel ils se repèrent facilement. Au contraire, ça va leur permettre de découvrir tout ça. Et la parlure de Pépé, par exemple, leur plaît beaucoup parce qu'il a un vocabulaire qui est totalement suranné. C'est un garçon très prétentieux et qui fait des phrases, qui utilise des mots. Mathilde dit de lui qu'il a un dictionnaire de mots rares dans la tête. Et ça amuse beaucoup les lecteurs, même si parfois ils ont du mal à comprendre ce qu'il dit précisément. Alors je fais en sorte qu'il y ait une espèce de sous-texte dans lequel Mathilde lève les yeux au ciel et explique à cet imbécile de Rémy ce que ça veut dire.
Alors précisément, ça fait 30 ans que vous avez débuté cette série, puisqu'elle est faite cette année. On retrouve d'ailleurs, et c'était le cas aussi avec vos histoires des gens, un univers qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de référence culturelle, disons, contemporaine. On porte encore des pattes d'eph, en tout cas dans les gens quelque chose. On s'échange les pulls en lycra de frère à frère, à mesure que les uns grandissent.
Parfois même, ça descend des cousins du haut jusqu'au plus petit.
Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce parti pris de ne pas coller, justement, aux références de l'époque, alors que ça s'adresse à un public de l'époque et un public qui aime justement ces livres-là, qui ne leur parlent pas de leur époque.
Moi, je ne sais pas si c'est un parti pris, mais j'ai l'impression que je m'aventure dans des territoires qui sont les miens. Ma démarche, je pense, est une démarche assez nostalgique par rapport à l'enfance. Je me suis aperçu il y a quelques années qu'en fait, j'avais passé mon enfance à souhaiter devenir grand, indépendant et aller vers cette vie d'adulte qui était prometteuse de tant de choses merveilleuses et que j'ai passé ma vie d'adulte à revenir par l'imaginaire dans mon enfance. Je suis entre ces deux mondes-là en permanence. Et il me semble que pour un jeune lecteur, l'exotisme lié à l'ailleurs ou l'exotisme lié à l'avant, c'est quelque chose qui est aussi une gourmandise de lecture. Et que tenter de coller à l'univers contemporain, je ne saurais pas bien le faire d'abord. Je ne suis pas sûr non plus que c'est ce qui me séduit le plus. Donc je me dis après tout, installons-nous sincèrement dans ce qui constitue, je crois, mon terreau, mon écosystème. Mmh. Et mon écosystème, effectivement, c'est cette enfance dans les années 60, dans cette série assez autobiographique, mais c'est aussi dans le domaine du roman policier ou de l'aventure, des livres dans lesquels la technologie n'est pas là, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est quand même plus agréable, je trouve, en termes de narrative, d'inventer une intrigue dans laquelle des personnages sont coincés dans une crypte secrète, sans téléphone portable, si immédiatement on peut appeler papa ou maman. Alors on peut dire, ah oui, effectivement, il n'y a pas de réseau, mais bon, donc c'est pas la peine.
Ça complexifie d'ailleurs.
C'est plus drôle.
C'est vrai que c'est aussi plus facile.
Bien sûr.
Au fond, qu'il n'y ait pas de portable.
Bien sûr, ça offre, la technologie offre des ressources formidables qui dynamitent un peu ce que j'ai envie de raconter.
D'ailleurs, j'aurais pu vous poser la même question, puisque c'est un univers aussi du
c'est
passé.
C'est désuet, oui. Oui,
désuet.
12 Vidocq, par exemple, 12 Vidocq. Est-ce que c'est un
clin d'œil? Je me suis fait plaisir à donner des noms pas possibles à absolument tous mes personnages.
Napoléon, Byron, ouais. Agathon,
ah, j'avoue que j'ai fait des listes. Mais je ne voulais pas que mon lapin, de toute façon, déjà dès le départ, s'appelle Jojo Lapin ou Pierre Lapin. C'était déjà pris, voilà. Non. J'ai voulu lui donner un nom le plus sérieux possible. Je voulais qu'il y ait ce contraste, comme je vous disais, entre sa mini mignonitude, si je peux dire, et son évidence, et puis un nom un peu déconcertant pour les enfants.
Mmh. Mais de la même façon, leur vêtements, ils ont une espèce comme ça...
Comme chez vous, exactement.
D'élégance bourgeoise, et ils ont des têtes d'animaux, donc le contraste, il existe là aussi, je trouve.
C'est ça. Et puis c'est vrai que de même que les téléphones portables fichent en l'air un peu les énigmes policières, je pense que pour les romanciers adultes, comme pour les enfants, le portable a dû poser pas mal de problèmes. Tout se résout en un texto.
Là, en plus, il appellerait pour savoir si elle est en retard et quand elle arrive. Ça serait la fameuse phrase « T'es où ?» Ouais. Qui est la phrase la
J'arrive.
Plus dite.
J'arrive, j'ai 5 minutes de retard.
À l'occasion d'une réimpression, je suis retombé sur un de mes romans qui s'appelle « Agence Pertinax » et dans lequel les héros résolvent l'énigme grâce au Minitel. Et c'est là qu'on se dit, ne soyons pas modernes dans nos livres, parce que péremption immédiate.
Et de même, visuellement, dessiner des paires de baskets, c'est quand même vachement moins marrant que dessiner une paire de bottines.
Ah là là, oui, c'est votre côté dandy. Oui, sur les noms, justement, Jean-Philippe Arouvignot, parce que vous posez la question à Rebecca, mais c'est carrément votre cas. Il s'appelle Pierre-Paul de Culbert, Monsieur Guillemet, ça va encore, mais il y a les noms, Monsieur Coruscant, il y a des noms comme ça. Bon, Blondin, effectivement, là, on parlait de Byron tout à l'heure, là, il y a Blondin chez vous. C'est vrai que Blondin est un nom répandu, mais moi je pense aussi à l'écrivain.
À l'écrivain, oui.
Dans ce jeu sur les noms, Coruscant, qui est un nom magnifique d'ailleurs, alors plutôt de la poésie symboliste fin 19e, mais dans ce choix, justement, des noms, des prénoms, il y a aussi la volonté, finalement, de dire un auteur, disons, qui écrit à hauteur de la jeunesse, c'est aussi quelqu'un qui va instiller, peut-être, ou poser, semer la petite graine qui fera lire d'autres livres qui sont même, en fait, présents, en fait, de façon cryptée. Les histoires qu'il raconte.
C'est ça, je pense qu'il y a des petites choses comme ça qu'on laisse de sa bibliothèque intérieure en ayant l'espoir que le lecteur s'en saisira et qu'il poursuivra son cheminement à travers lui-même, sa propre bibliothèque. On lui aura donné quelques pistes. On aura éclairé d'un coup de lampe torche comme ça des petits fonds de bibliothèque ou des corridors qui conduisent vers des étagères un peu en hauteur où il y a des choses merveilleuses à trouver.
Une lampe torche qui fait du morse et qui lui dit... Il y a d'autres choses aussi après à lire, tu vas voir, c'est génial. C'est votre cas aussi, Rebecca, notre mère ? Petite graine qu'on sème pour qu'ils aillent lire d'autres choses. Peut-être voir, parce qu'il y a des références à Bruegel, dans Jacobinus Gainsborough. Il y a notamment une scène de cours d'école où on a l'impression de voir cette scène de neige. Je ne sais plus comment s'appelle le tableau où on voit les gens patiner.
Alors, à dire vrai, c'est drôle. Moi aussi, j'avais souvenir que la scène d'école de Bruegel était sous la neige, mais ça n'est pas le cas. C'est un beau printemps.
D'accord, mais il y a un tableau
mais
de neige.
Mais il y a des références au tableau de Bruegel. Il y a des références à des tableaux de campagne
et de
napoléonienne. Il y a un petit portrait de Gainsborough dans le livre. Vous ne l'avez peut-être pas vu, il est caché.
Oui, donc ça aussi, ça participe de ce
Alors,
désir de dire...
Alors, je le fais parce que c'est un vrai plaisir d'image et d'illustrateur, et voilà, et les enfants peuvent aussi, les grands reconnaissent et peuvent conduire les enfants à aller reconnaître les tableaux qui sont en référence à tout ça. Il y a c'est un peu honteux pour moi de dire, mais je regardais les Turner pour les porcs et tout ça. Évidemment, voilà, ce n'est que de la référence.
Mais c'est la transmission aussi, je trouve. C'est important d'inscrire nos livres là-dedans et puis d'ouvrir cette porte à nos lecteurs.
Et pour ce qui est des mots et des... Effectivement, c'est toujours amusant de voir un tout petit enfant de 5 ans qui est capable de retenir qu'il y a une vache qui s'appelle Polycarpe Magloire.
Voilà,
pourquoi se priver de ça? Et les mots un peu compliqués, les noms un peu étranges, les enfants le maîtrisent bien.
Pourquoi se priver? En tout cas, vous ne les privez de rien, les enfants. Merci beaucoup, Philippe Arouvignot. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Enquête au collège, tome 8, L'élève qui n'existait pas, c'est chez Gallimard Jeunesse. Donc, il y aura un 9.
Je ne sais pas encore.
Voilà, on va voir et vous reviendrez. Et Midi Pile de Rebecca d'Outremer, donc une aventure en volume, en traversée de Jacobinus Gainsborough. C'est chez Sarbacane. Merci beaucoup Rebecca d'Outremer.
Merci.
On se quitte en écoutant votre choix musical. On n'en a pas parlé, Jean-Philippe Arouvignot. Vous avez choisi Ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis. Pourquoi ce choix?
Le côté d'abord polar noir, ambiance nocturne, et puis aussi pour quelque chose que j'adore dans le jazz, c'est à la fois la liberté, la précision. Et dans la langue, c'est ce que j'essaie de trouver, ça. Liberté et en même temps extrême précision.
Merci encore à tous les deux. C'était Le Temps des Écrivains avec Anne-Catherine Lochard et la complicité de Tsolak Paloyan, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Bernard Lagnel à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter et podcaster à l'infini sur franceculture.fr. Cette heure passée avec deux auteurs qui écrivent à la hauteur de la jeunesse et pas forcément pour la jeunesse, Rebecca D'Autremer et Jean-Philippe Haroux-Vigneault.